Cher confrère, je veux d'abord vous remercier de m'avoir invité à présenter au cours de ce prestigieux colloque un épisode dont l'énoncé appelle peut-être une explication. En réalité, il s'agit de donner un tableau des interventions de deux personnalités dans l'immédiat premier après-guerre, le comte et la comtesse Jean de Pange. Et donc je vais commencer par présenter les deux principaux protagonistes. Jean de Pange, d'abord, est né en 1989. Alors, je ne sais pas s'il faut annoncer d'abord qu'il a fait l'école des chartes, il a été un pur chartiste, ou bien qu'il était issu d'une très ancienne famille de Lorraine, les deux caractères se conjuguant étroitement pour former sa personnalité. Les Thomas de Pange sont originaires du Clermontois, en Lorraine, anoblis depuis 1626 par lettre patente du duc de Lorraine Charles IV, je cite, en considération des services rendus depuis près de 300 ans et plus. Depuis 300 ans et plus. En 1720, le roi Stanislas nomme l'aîné de la famille gardien de la marche, c'est-à-dire marchis, d'où marquis. La terre de Pange est un important château du XVIIIe siècle, à l'emplacement d'une vieille forteresse, à la lisière entre le royaume de France et le duché de Lorraine. Et c'est cette situation qui explique la vocation si fortement prononcée des Panges en général et de Jean de Pange en particulier. Cette forteresse est située en Lorraine, mais au XVIIIe siècle, elle devient française. Et en 1871, elle est allemande. À l'époque, les Panges choisissent la France et s'installent à Paris. Mais, c'est symptomatique des données de l'époque, ils retournent chaque année à Panges pendant la belle saison, où ils ont un séjour peut-être habituel. Et Jean de Pange, pendant sa jeunesse, a ses premiers souvenirs d'enfance à Pange, en Lorraine. Il s'ensuit un certain nombre de caractères, sa personnalité, peut-être sa réserve à l'égard de la Nouvelle-Allemagne, la Prusse, l'Allemagne qui a triomphé en 1870 et qui est issue de la tradition des chevaliers teutoniques, des moines soldats de l'ordre teutonique qui ont conquis les pays baltes. De sa jeunesse vient évidemment, et de toute sa formation, vient une préférence pour l'autre Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne rhénane, catholique, et qui n'appartient pas à la même tradition, peut-être pas même à la même, non, il ne faut pas prononcer le mot de civilisation, mais enfin, ce sont deux parties assez éloignées, à l'époque en tout cas, de l'Europe. De cette situation vient aussi, dans l'esprit de Jean de Pange, l'idée que l'État et les structures politiques sont bien peu de choses, que la réalité est ailleurs, que les liens institutionnels sont révocables, alors que les liens culturels, eux, préexistent et sont beaucoup plus importants. Les liens historiques, les liens sentimentaux, ceux qui créent en réalité la nation, l'appartenance. Et très tôt, il adhère à la conception exprimée par Maurice Barrès dans Les Déracinés. La Lorraine se définit par la terre et les morts. Et il écrit « Le culte des morts est ce qu'il y a de plus profond dans l'âme lorraine ». Puis l'horizon s'élargit pour lui. Son père est nommé attaché militaire à l'ambassade de France, mais pas n'importe laquelle, à l'ambassade de France à Vienne. Pendant 4 ans, Jean de Pange s'imprègne d'une géographie spirituelle, selon ses termes, d'une nostalgie, disons-le, d'une certaine Autriche, qui correspond à l'aigle bicéphale, les armoiries unies des Habsbourg et de la Maison de Lorraine, la double monarchie lorraine, catholique, fédérale, cosmopolite, encore habitée par les souvenirs du XVIIIe siècle et du prince de ligne, c'est-à-dire européenne. Et il écrit « Pour un Lorrain, l'Autriche est sa seconde patrie ». Donc, guidé par un de ses oncles chartistes déjà, tout jeune, il s'intéresse aux archives impériales à Vienne et il travaille sur le fonds lorrain et voit ses conceptions intellectuelles confirmées et sa vocation naître. L'Autriche-Hongrie est un concept spirituel. La double monarchie et le Saint-Empire romain germanique sont les héritages des rêves universalistes de Charlemagne et de Charles Quint. Les cultures nationales, les langues, les religions, les peuples préexistaient et sont beaucoup plus importants que les constructions politiques nationales. Plus importantes, mais surtout dans son esprit plus légitimes. La Lorraine, comme l'Autriche, sont des patries spirituelles, des patries, ayant pour vocation d'unir les cultures et les peuples unis par un idéal transcendant, représenté par la notion qu'il a étudiée particulièrement, peut-être c'est lui qui l'a étudiée le plus loin, le plus profondément, la notion de la couronne, si importante dans l'Empire austro-hongrois, mais si importante aussi dans l'ancien régime de la France, qui reposait pratiquement tout entier sur une notion bien abstraite et idéale de la couronne. Alors la vocation d'historien s'épanouit, elle est irrésistible, Jean de Pange entre à l'école des Chartes. Il passe une licence ès-lettres, une licence en droit, il suit les cours au Collège de France, pas dans ce superbe auditorium, mais il y est assidu. Il suit les cours à l'école des hautes études et aussi aux sciences politiques. Et sa formation intellectuelle est très vaste, mais elle n'est pas achevée. Son fils, Victor de Pange, écrit « Toute sa vie, il fut un éternel étudiant ». Et en effet, c'est à 68 ans, en 1949, qu'il passe sa thèse de doctorat à la Sorbonne sur le sujet du roi très chrétien, c'est-à-dire le sujet de la couronne de France. Après un grand tour en Orient, en Extrême-Orient et en Europe, il se laisse revenu à Paris, il se laisse conduire dans quelques balles. Et c'est là qu'il rencontre, en 1909, chez la princesse de Polignac, Pauline de Breuil. Alors elle est âgée alors de 20 ans. Elle descend du deuxième maréchal de Breuil, qui fut gouverneur de Strasbourg, une racine alsacienne, et du troisième maréchal de Breuil, qui fut également gouverneur de Strasbourg, mais surtout qui, lors du renversement des alliances, commanda les armées françaises et autrichiennes sous son commandement, par délégation de l'empereur d'Autriche pendant la guerre de 7 ans. Il remporta plusieurs victoires, dont la victoire de Minden en 1759, et il fut fait prince du Saint-Empire romain germanique par l'empereur François Ier, lui et tous ses descendants, selon la règle du Saint-Empire romain germanique. Pauline de Broglie est donc princesse du Saint-Empire. Elle descend de Madame de Staël, qui eut elle-même une liaison avec François de Pange. Elle descend des deux hommes d'État et historiens, les ducs Victor et Albert de Broglie, et elle est d'un caractère extrêmement indépendant, d'un esprit très vif, qui se passionne déjà pour la préhistoire qu'elle étudie, pour l'archéologie et, accessoirement à l'époque, pour l'histoire. Mais tout cela en autodidacte. Et ils comprennent aussitôt, en un instant, qu'ils sont faits l'un pour l'autre et pour une vie qui sera un enrichissement continuel et une aventure intellectuelle. La guerre de 1914-1918 entraîne évidemment l'effondrement des constructions rêvées par Jean de Pange. Par son déroulement d'abord, il est mobilisé, il est engagé dans les premières lignes pendant presque toute la guerre, et il combat. Et il termine la guerre comme capitaine, avec la croix de guerre à 3 citations et la Légion d'honneur. Mais dans son pactage, un officier découvre un livre en allemand et lui en fait le reproche. Et il répond à son capitaine: « Je fais la guerre aux Prussiens, pas à Goethe. » Donc 1918 marque l'effondrement des empires et le surgissement d'un État centralisé dont la notion d'État totalitaire apparaît. En tout cas, c'est la destruction de l'ordre ancien européen, et ce qui suit la guerre, Jean de Pange l'appelle la paix perdue. Les peuples ne conservent la guerre que lorsqu'ils s'en montrent dignes, dit-il, dans un discours en 1919 devant le monument aux morts de Pange. Et donc, la guerre de 1914 enseigne aussi des modifications profondes dans les conséquences individuelles de Jean de Pange et de sa femme. Plus rien n'est comme avant, leur vie personnelle, mais surtout leur attachement à la Lorraine et à l'Alsace. De nouvelles provinces sont nées, une nouvelle Alsace est née, qui est bien différente à la fois de ce qui a existé avant, de l'idée que s'en font les Français après la guerre, et de ce qu'elle devient depuis la guerre. Et il apparaît bien clairement à l'esprit de Jean de Pange que l'essentiel, c'est de tout faire pour réconcilier la France et l'Allemagne et de cultiver les personnalités des différentes nations de telle manière qu'elles permettent de faire apparaître une nouvelle notion qui, à ses yeux, est la seule qui vaille, c'est-à-dire l'Europe. Alors, les affectations du chartiste à la recherche d'une situation le conduisent en septembre 1918 à être affecté au service général d'Alsace-Lorraine, organe officiel français destiné à reconstruire, en quelque sorte, les provinces recouvrées. Et dans cet emploi, il se veut le défenseur des libertés alsaciennes et lorraines. Avec une occupation à Strasbourg, la ville des routes, au carrefour des peuples, et qui lui apparaît comme un point d'ancrage à toute la reconstruction de la situation européenne. Il conçoit très vite qu'une Alsace nouvelle est née, par rapport à laquelle l'image traditionnelle de Hansi, par exemple, est tout à fait dépassée. Et les Français ne le savent pas. L'autonomie alsacienne au sein du Reich allemand a été très importante. L'Alsace avait été établie comme terre d'empire. Elle était d'une certaine manière le ciment des différentes parties du nouvel empire fondé en 1871. Et dans ce rôle nouveau de l'Alsace, l'autonomie alsacienne a existé et elle a reçu, dit Jean de Pange, plus de satisfaction du régime allemand que sous le nouveau régime français. Elle avait été prospère et respectée et, contrairement à une idée reçue, n'avait pas été écrasée sous le joug prussien. La population alsacienne en est bien convaincue. Les autorités françaises ne le sont pas et considèrent que leur rôle est de donner la liberté reconquise de l'Alsace à la France pour une politique d'assimilation. Et au sein du service général de l'Alsace-Lorraine, la politique est de réaliser l'absorption totale de l'Alsace-Lorraine à la France. Cela ne peut pas ne pas entraîner des désillusions. La France qui veut cette assimilation n'est pas homogène à l'Alsace-Lorraine issue des années de l'Empire allemand. La France qui intervient, elle est centralisée, elle est parisienne, elle est laïque. Et petit à petit, tous les éléments d'une autonomie alsacienne sont supprimés. Le Conseil national d'Alsace-Lorraine est supprimé. Dans la fonction publique, une sorte d'épuration est faite, en tout cas une purge douce, mais une purge des fonctionnaires qui ont assuré le fonctionnement de l'Alsace et de la Lorraine pendant le régime précédent s'effectue. Et en réalité, ce sont des élites alsaciennes et allemandes qui sont l'objet de ce remplacement. Et les fonctionnaires venus de France ne sont pas forcément sensibles à la réalité alsacienne. Un personnage symbolise assez bien ce tiraillement qui est toute la question alsacienne dans l'immédiate après-guerre, c'est Lyautey. Lyautey qui, aux yeux de Jean de Pange, est considéré comme le représentant idéal de la nouvelle Alsace-Lorraine. Et il est question à l'époque que Lyautey soit nommé commissaire général de la République française en Alsace-Lorraine. Mais cette vue qui a eu une réalité sur place ne correspond pas du tout aux vues de Paris. Lyautey ne s'entend pas avec Clémenceau, qui nomme à sa place Millerand. Et tout de même, il y a un certain nombre de gestes. La France rétablit l'université de Strasbourg, une université française, et elle maintient en même temps la faculté de théologie. Donc la faculté de théologie devient une des deux ou trois facultés de théologie dans les universités françaises. Et Jean de Pange est affecté à la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Ils sont donc tout à fait installés à Strasbourg, et ils considèrent leur mission, lui et elle, comme d'être un foyer d'études et de réflexion à propos de l'Alsace, de la Lorraine, de la Rhénanie et de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Pauline de Pange crée l'œuvre du livre français qui est associée à l'université, et leur rôle à tous les deux est d'inviter des conférenciers, de les inviter à la bibliothèque universitaire de Strasbourg et d'attirer des cours, des professeurs, des écrivains, des historiens, des savants, des différents pays, de tous les pays. Et l'un des premiers accueillis par les Panges est Maurice Barrès, qui vient prononcer à la Société des Amis de l'Université de Strasbourg, fondée par Jean de Pange, une série de conférences sur le génie du Rhin. Jean de Pange en profite pour marquer sa différence, peut-être sa distance, avec toute perspective de nationalisme étranger et outrancier. La question alsacienne continue à provoquer quelques remous. Ainsi, en 1920, les enseignants et les fonctionnaires en fonction en Alsace et en Lorraine se mettent en grève pour protester contre l'assimilation française. La question de la langue est aussi tout à fait importante et l'un des enjeux en débat. Cette question est mal connue des Français, et en particulier des Français qui sont nommés en Alsace, et qui croient que la langue allemande a été introduite en Alsace après 1870, et qui ne conçoivent pas que la langue maternelle est depuis toujours en Alsace et dans certaines régions de la Lorraine, depuis toujours, c'est-à-dire depuis les grandes invasions, un dialecte germanique. Et que la langue littéraire est le Hochdeutsch parlé par les Alsaciens. L'allemand est devenu, après 1870, la langue unique d'enseignement, mais le français a existé, a régressé d'ailleurs, et l'une des tâches, en effet, de l'université de Strasbourg est de concourir à un retour du français en Alsace et en particulier dans cette université. Mais le recteur, Charletti, est lui partisan d'une francisation totale. Et donc, il veut établir tous les enseignements en français, et c'est concevable à l'université, mais il veut aussi faire disparaître l'enseignement de la langue maternelle au niveau primaire. Et Jean de Pange est partisan d'un plus de réalisme, de tenir compte de la réalité sociale, et il milite pour que le premier enseignement à l'école primaire soit à la fois dans la langue maternelle et dans le français. Et c'est à cette époque que Jean de Pange et sa femme, Pauline de Pange, décident de s'installer à Saverne, dans une grande villa qui s'appelle la Schlittenbach, et qui est dans un endroit totalement isolé, très beau, paraît-il, entouré de forêts, et que l'on appelait la villa Abou, parce que Edmond Abou y a séjourné pendant le Second Empire. Il cherche une installation pour y accueillir des intellectuels alsaciens, français, allemands et étrangers pour pouvoir y échanger librement les idées. Il souhaite offrir un cadre de réflexion et de conversation personnelle, de connaissances et de conversation personnelle. La villa, la Schlittenbach, se prête assez bien à cette utilisation car elle a été, pendant une certaine période, une pension de famille. Elle a été achetée par un oncle Pange et c'est comme cela qu'ils sont introduits dans cette villa et ils s'y installent. Ils ont la vue sur la forêt noire, sur les vallées du Rhin, sur la vallée du Rhin, une vue magnifique qui s'étend jusqu'en Allemagne. Et ils jouissent là de la paix et de la solitude d'une maison d'écrivains, mais d'une maison consacrée à des réunions d'écrivains. Alors, je vous indiquerai quelles sont les personnalités qui ont été invitées à la Schlittenbach et qui ont été invitées à prononcer des conférences à l'Université de Strasbourg et qui ont fait des séjours dans cette ville-là. L'un des plus constants et des plus chers amis de Jean de Penge, c'est Robert d'Harcourt. Son contemporain, professeur de langue et de civilisation germanique à l'Université catholique de Paris et membre après de l'Académie française, spécialiste de la civilisation germanique, tout à fait à sa place dans ses rencontres. Georges Goyot, le moraliste chrétien, qui milite pour la présence du livre français et en même temps la fraternité à restaurer entre la France et l'Allemagne, en Alsace en particulier. Maurice Barrès, évidemment, qui prononce ses conférences, peut-être le premier qui ouvre la série de conférences, Le génie du Rhin. René Bazin, qui publie un roman lorrain. François de Curel, qui vient en voisin, car il est propriétaire de la forêt de Ketzing dans les Vosges. Maurice de Breuil, invité par sa sœur, et qui vient faire une leçon aux étudiants de Strasbourg sur les rayons X, mais qui ne manque pas de venir à la Schlittenbach s'entretenir des perspectives de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et Louis de Broglie, après sa thèse sur la mécanique ondulatoire, vient aussi un, je crois, bref passage à cet endroit. Alors, les étrangers sont également invités. Le comte Kesselring, Thomas Mann, Otto Flacke, René Schickele, Guglielmo Ferrero, historien de la Rome antique, mais dont les idées connaissent un grand regain de faveur à l'époque, Sir James Fraser, l'anthropologue de Cambridge, auteur du Rameau d'or, très bon ami de Jean de Penge, et qui donne des considérations sur l'homme préhistorique et les mythes grecs qui enracinent encore davantage les conceptions de Jean de Penge. Sir Edmond Gosse, auteur d'un roman social « Father and Son », Frédéric Lindemann, professeur à Oxford, physicien, devenu par la suite conseiller scientifique de Churchill et devenu Lord Cherwell. Alors, d'autres encore, Fernand Baldensperger, qui est le maître du comparatisme mondial et qui trouve là un terrain d'application de ses idées. Le professeur Albert Fuchs, de l'Université de Strasbourg, spécialiste du romantisme allemand. Henri Lichtenberger, l'abbé Breuil, pionnier de la préhistoire, ami de Jean de Penge. Paul Desjardins, animateur des décades de l'abbaye de Pontigny. Alors, après 1925, le cercle des Penges s'élargit. Ils regagnent Paris. Leurs amitiés sont allemandes, nombreuses. Le professeur Hermann Platz de Bonn, Peter Würtz, philosophe rhénan, l'ancien chancelier allemand, Wirth, et le futur chancelier allemand, Adenauer, maire de Cologne, le professeur Ernst Robert Curtius, le journaliste August Abel, l'Autrichien Kudenov Kalergi, et du côté français, Denis de Rougemont, Daniel Rops, Pierre Viennot, Lyautey, bien entendu, et Nicolas Berdiaev. Voilà, le cercle est très vaste, il faut ajouter le comte Sforza aussi, père de celui qui a été secrétaire général du Conseil de l'Europe, mais qui connaissait très bien Jean de Penge, qui le cite d'ailleurs dans son œuvre « Les frères ennemis » publiée en 1933 sur la nécessaire réconciliation entre la France et l'Allemagne. Ils poursuivent les mêmes objectifs. Après la liste des personnalités, quels sont les thèmes de ces entretiens? Ils sont connus par plusieurs publications. D'abord, Jean de Penge a écrit « Les soirées de Saverne » en 1927. et qui sont le reflet pur et simple et direct des conversations de Saverne. Et il a écrit un autre livre plus tard, un beau livre, Les Meules de Dieu, France, Allemagne, Europe, en 1951. On connaît les thèmes aussi par les différents comptes rendus qui en ont été donnés par Pierre de Boisdeff, par le cardinal Danielou, par Jean Guiton, par Robert d'Harcourt, Jean de la Varande, Charles Samaran, Robert Schumann, Jean Schlumberger, qui étaient des familiers d'Épanges, mais pas spécialement à la Schlittelbach. On les connaît par une cérémonie de commémoration qui a eu lieu à Saverne en 1975, dont les actes ont été publiés, et on les connaît par le beau livre de Jean-François Tulle sur Jean de Pange, un Lorrain en quête d'Europe. On le connaît peut-être surtout aussi par les livres de Pauline de Pange, Comment j'ai vu 1900, le tome 4 retrace cette expérience, et par un roman qu'elle a écrit, intitulé Le Beau Jardin, un roman sur l'Alsace en 1918-1919. Les thèmes, donc, c'est tout d'abord le malaise alsacien, le malaise de l'Alsace après la guerre, la personnalité alsacienne qui ne trouve pas sa place entre double culture et assimilation française. La personnalité alsacienne et son rôle de préfiguration dans l'élaboration d'un fédéralisme européen. Voilà un thème constamment rebattu. La Rhénanie, ensuite, apparaissant comme l'un des intérêts et l'un des enjeux complexes entre la France et l'Allemagne sur la rive du Rhin, zone intermédiaire liée au fédéralisme, à une culture urbaine, catholique. Les Alliés, à l'époque, occupent Cologne, Coblenz et Mayence, zone démilitarisée, considérée tantôt comme un embryon d'une future organisation fédérale, tantôt comme l'embryon d'un État, d'une nation rhénane pouvant devenir un État, et il y a une agitation autonomiste maladroite autour de Dartène à l'époque, mais considérée comme d'autres comme un gage de sécurité et comme la base d'une politique de réparation. Pour Jean de Pange, les traités de 1919 doivent donner une place essentielle aux pays rhénans dans le rapprochement entre l'Allemagne et la France. Il s'agit de retrouver les sources de l'histoire des territoires rhénans, alors que, à l'époque, Maurice Barrès développe une autre conception différente, qui est la création, qui veut l'annexion de l'Alsace, de la Lorraine, mais aussi d'un bastion rhénan qui viendrait accroître le territoire français. De cette époque date une distanciation entre Jean de Pange et Maurice Barrès, qui ne peut pas rejoindre cette idée de création d'un bastion rhénan séparé de l'Allemagne. Autre thème proche, évidemment, c'est la Sarre. La Sarre, terre de constat. Et la Sarre, à l'époque, laboratoire institutionnel entre la France et l'Allemagne. Autre thème, la vocation du Rhin. Le Rhin, ce Nil de l'Europe, selon Lamartine, détourné de sa vocation historique de trait d'union, le Rhin devenu frontière ou enjeu stratégique. Et le mouvement rhénan est tout à fait actif dans les années qui ont suivi 1918, et certains proposent la création d'un État autonome dans une Allemagne fédérale, déjà, en tout cas d'un Land autonome. Le parti politique de Zentrum soutient à l'époque cette position. Elle est soutenue également par le jeune maire de Cologne, Adenauer. et elle est encouragée avec beaucoup d'hypocrisie par les autorités françaises en sous-main, comme un moyen d'action. Toujours l'idée de gage dans les relations entre la France et l'Allemagne. Mais ces tentatives ne connaissent pas de développement et se traduisent par une série d'échecs et de disparitions du comité de la rive gauche du Rhin créé à Paris et qui doit se séparer. Et puis surtout, cette tendance, ce mouvement se heurte à la politique suivie, qui est une politique d'annexion et de réparation, avec, on le sait, l'occupation de la rive gauche, l'occupation militaire. D'autres thèmes encore, les réparations précisément, et les dettes interalliées, sont-elles justifiées, les dettes oui, de l'Allemagne vis-à-vis des... Sont-elles justifiées? Sont-elles justifiées par l'histoire? Ne sont-elles pas nuisibles? Autre thème, les traités de 1918-19, et leur incapacité à résoudre le malaise de l'Europe, et notamment par l'interventionnisme brutal et maladroit dans la chair de l'Europe et dans la vie des peuples. On retrouve là les thèmes de Jean de Pange, n'est-ce pas ? Et puis alors, beaucoup plus généralement, le problème des cultures, de la diversité des cultures et de l'unité de la culture, et le problème des élites, toujours présent dans la réflexion de Jean de Pange. Donc l'Alsace et le Rhin apparaissent ainsi comme au cœur d'un mouvement de réflexion et d'idées dont l'objectif est le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Et on le sait, cette conception est éloignée de celle qui règne à l'époque, aussi bien en France qu'en Allemagne. En Allemagne, on assiste à une renaissance du nationalisme, et à une opposition à tout ce qui pourrait apparaître comme séparant des parties du territoire de l'Allemagne, donc à une opposition à toute autonomie rhénane. Et c'est en raison de cette opposition que le mouvement d'autonomisme rhénan s'effondre. En France, la politique du haut-commissaire Paul Tirard est certes nuancée. Il crée dans les pays rhénans une administration sous dépendance française dont l'objectif est de déprussifier la Rhénanie. C'est une politique culturelle, une politique de présence de la langue française, de rapprochement entre les écoles et les universités de Rhénanie avec l'université de Strasbourg et les universités françaises. Mais en réalité, la politique française n'est pas dictée par le haut-commissaire, elle est décidée par Paris, et elle est de considérer la présence en Rhénanie comme un gage, une prise de guerre, c'est-à-dire le contraire d'une collaboration entre la France et l'Allemagne, et comme un otage de la docilité du Reich allemand tant que ce gage est détenu. D'où naissent des tentatives d'orienter l'économie rhénane vers la France, de poursuivre les réparations. Les industriels français et allemands s'interrogent sur cette politique et ils s'y opposent à une autonomie économique de la Rhénanie, les Allemands comme les Français. Les Allemands, les industriels allemands par nationalisme économique, mais les industriels français par protectionnisme. Et donc, à la place, c'est le gouvernement français mène une politique de la roue, qui est complètement différente. Et, en définitive, c'est une politique de réparation, non pas une politique rhénane, qui aboutit encore une fois de plus à l'effondrement du rêve de Jean de Pange. Alors, il faut mentionner l'originalité et la pureté de la conception de Jean de Pange. Donc j'ai dit qu'il se séparait de Maurice Barrès et de ses visées annexionnistes. Jean de Pange dit « Barrès ignore tout de l'Allemagne ». Il en jugeait à partir de sa propre conception. Il se sépare aussi des héritiers de la politique napoléonienne, de la violence. Et il considère que la vocation de la France est de faire respecter les autonomies régionales qui préexistent. Il se sépare de Maurras, enfermé dans un nationalisme agressif et stérile. L'action française, selon lui, repose sur une contradiction. Le défenseur de la royauté ne peut pas être l'organe d'un nationalisme intégral. Il accuse Maurras d'être un jacobin blanc. Alors voilà, il est beaucoup plus près de George Frazer, l'auteur du Rameau d'or et de sa typologie royale, de quelqu'un comme Marc Bloch, par exemple, dans Les rois thaumaturges, qui sort de 1924. Et donc, il continue à développer sa conception de l'Alsace-Lorraine, ciment d'une réconciliation entre la France et l'Allemagne, et qu'il faut préserver et enrichir. Les rencontres de la Schlittenbach s'élargissent quelques temps plus tard et se continuent, d'abord dans les décades de Pontigny et aussi dans les rencontres du château de la Robertsau aux portes de Strasbourg. C'est une démarche tout à fait pas parallèle, parce qu'elle n'a pas eu lieu en même temps. Elle succède à la démarche de Pauline et de Jean de Pange, et elle est accomplie par la marquise de Loïs-Chandieu, qui réunit dans le même objectif un cénacle d'hommes politiques et d'écrivains français et allemands. En plus de ceux que j'ai cités tout à l'heure, j'ajoute Mauriac, Daniel Halévy, Émile Henriot et Edmond Jaloux en font partie. Cette démarche de la Robertsau a échoué comme celle de la Schlittenbach. Le moment est venu de s'interroger quelques instants sur les raisons de cet échec. Pourquoi n'ont-ils pas eu plus d'audience dans la réalité politique, mais aussi plus d'audience dans le monde intellectuel? Alors il y a à ça plusieurs raisons. Il y en a une que je voudrais écarter tout de suite, c'est que Jean de Pange a été considéré comme le tenant des idées monarchistes. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ces conceptions débordent largement. Sans doute avait-il une préférence pour la forme monarchiste, mais par attachement d'historien. Mais il n'était pas monarchiste et il s'est séparé du mouvement monarchiste. Donc je pense que cette raison-là est à écarter dans tout ce que j'ai dit précédemment, et dans l'espèce de bilan, il faut écarter l'idée monarchiste. Alors au contraire, il faut faire une place aux idées catholiques. Ça est certain. Elles n'ont jamais été reniées par Jean de Pange, et d'ailleurs par beaucoup de ceux qui militent en faveur d'une reconnaissance de la personnalité alsacienne et lorraine. Évidemment, à l'époque, on ne mettait pas ces idées en avant sur le plan général. Les idées catholiques n'étaient pas en faveur, ni en Allemagne, ni en France, certainement pas. Et ces idées d'autonomie régionale, leur peu d'audience sont aussi dans le fait qu'elles ont été brouillées par la concomitance de thèses extrémistes, séparatistes, thèses très minoritaires, pas du tout globales, mais enfin très virulentes, et qui ont effectué un brouillage intellectuel. Et les idées de Jean de Pange, beaucoup plus nuancées, avaient peine à trouver leur place parmi les échos violents, extrémistes de ce qui se passait à l'époque. Je mentionne un cas qui a été une pomme de discorde entre la France et l'Allemagne et un obstacle à la réconciliation. C'est que dans toute sa politique rhénane, la France a utilisé pour occuper les territoires des troupes coloniales. Et l'opinion allemande ne l'a jamais accepté. Alors, les idées de Jean de Penge sont des idées régionalistes. Alors que, replaçons-nous en 1920, les idées régionalistes ne sont pas dans le courant de l'époque. En réalité, elles sont même à contre-courant. Il faudra attendre beaucoup plus pour que les idées régionalistes émergent lentement, très lentement, et plutôt au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut dire aussi que du côté français, les idées de Jean de Penge sont directement opposées à celles de Clémenceau, puis à celles de Poincaré, qui n'entre pas dans la série de nuances introduites par Jean de Penge. Ce qui explique que finalement, il a été critiqué de toutes parts. Par les journaux parisiens, il est considéré comme un intellectuel distingué, certes, et qui n'est favorable à une politique culturelle, mais qui n'est pas favorable à l'unité française. Et ce point qui est un contresens lui a été reproché. Il a été critiqué par l'Action française, comme un défenseur de l'autonomisme alsacien, ou en tout cas de la personnalité alsacienne, et aussi comme démocrate chrétien, ce qui n'était pas dans les idées de l'Action française. Il a été critiqué par les hommes politiques, qui au fond voient en lui un rétrograde. Certains disent même un homme du XIIIe siècle. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas une critique. Le rapprochement franco-allemand, à ses yeux, est une œuvre en effet spirituelle, fondée sur une entente entre les élites des deux pays et plus largement l'élite intellectuelle européenne. Sa conception se rattache en effet à celle de la chrétienté médiévale, et c'est en cela qu'on peut dire qu'il est un homme du XIIIe siècle, conception qu'il exprime ouvertement. Alors, maintenant, pourquoi n'ont-ils pas eu d'audience dans le monde intellectuel? Et c'est plus étrange. Jean de Penge est un pur intellectuel, ayant en plus un réseau de relations et un rayonnement social assez important dont on retrouve la trace dans nombre d'écrits de l'époque. Et il faut noter que ses interventions, son action, se situe à un moment précisément où l'intervention des intellectuels connaît un regain d'importance et de sonorité, j'ose dire, parmi le débat intellectuel et politique de l'époque. Alors peut-être faut-il dire que, justement, les intellectuels retrouvent un certain rôle croissant dans le débat général dans l'immédiate après Première Guerre mondiale. Ce n'est pas nouveau, il y a eu évidemment des sommets du rôle des intellectuels dans les débats français, mais il faut noter qu'il y a un nouvel accroissement dans les années 1920. Peut-être est-ce une des raisons, c'est à cause du volume sonore créé par les polémiques et le côté assez bruyant des débats intellectuels de l'époque, peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles la voix de Jean de Penge n'a pas pu se faire mieux entendre. Peut-être était-ce aussi dans la nature de l'homme. Et j'en ai terminé sur ce constat assez pessimiste d'une tentative généreuse menée à deux, ce qui est une des clés d'explication, car l'action de Jean de Penge ne s'est jamais séparée de ce que lui apportait Pauline de Penge, Pauline de Breuil, et l'appui qu'elle pouvait lui apporter, très précieux. Et donc, le constat final est celui d'une désillusion et d'un échec à ce moment-là. Mais c'est aussi le moment de constater que, n'ayant jamais cessé d'œuvrer pour sa quête d'Europe, comme le dit dans son livre Jean-François Tulle, il a vu, au moins avant de disparaître, la réalisation de la moitié de ses idées. Jean Lepage est mort en 1957. Les débuts de la construction européenne institutionnelle, avec Robert Schuman et Adenauer, qu'ils connaissaient tous les deux, reposent, en partie, sur sa propre conception d'une Europe carolingienne, assise aux fortes racines chrétiennes, et que ses propres idées auront finalement germé et contribué à cette réalisation institutionnelle à laquelle il a assisté. Il faut ajouter une autre constatation, c'est que finalement, ces idées auront aussi contribué à la seconde réconciliation entre la France et l'Allemagne, celle à laquelle nous avons assisté, celle de De Gaulle, d'Adenauer, de Kohl et d'aujourd'hui, c'est-à-dire la réconciliation profonde, qui n'est plus sur un fond conflictuel entre les deux pays, la réconciliation irréversible avec une Allemagne réunifiée, réconciliation qui forme le socle de l'Europe, et sans doute tout cela entre-t-il aussi dans une sorte de postérité des idées de Jean Lepage. Alors c'est le moment de citer pour terminer les vers trouvés par Jean Lepage dans les carnets d'un soldat allemand tombé à Douaumont en 1916 et qui lui ont inspiré le titre de son livre. Les deux vers sont les suivants. « Les meules de Dieu broient lentement, mais elles broient extrêmement menues. » Et de citer la phrase de Nietzsche qu'il place en exergue de son livre « Les meules de Dieu ». Cette phrase est la suivante. « Les idées qui transformeront le monde avancent à pas de colombe. »